Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Et pourtant, elle tourne. La Terre, comme le vent de l'histoire. En 1990, l'année de sa disparition, Antoine Vitez montait la vie de Galilée de Bertolt Brecht alors que le mur de Berlin était tombé et que s'effondrait l'Empire soviétique. Dans l'autocritique du Galilée de la pièce de Brecht, Vitez voyait aussi la propre autocritique de son auteur. Membre du Parti communiste jusqu'en 1980, la montée à ce moment de l'histoire était peut-être pour Vitez aussi une manière d'autocritique. Avec ce travail, j'ai l'impression de revenir à la maison, disait-il. Il s'agirait en somme d'une maison commune, la maison communiste. La pièce, Galilée, évoque les problèmes que pose la science dans son ensemble, la science sociale, y compris dans ce qu'on appelait, puisqu'il faut bien parler au passé, l'idée du communisme. L'effondrement de cette idée n'est pas, comme certains voudraient le croire, un cliché. Les États qui se réclamaient d'elle s'effondrent. On ne peut pas dire alors qu'elle soit étrangère à cet effondrement, qu'elle puisse flotter, intacte, au-dessus du désastre. Les idées n'existent que par leur incarnation. Si l'incarnation disparaît, l'idée est blessée à mort. Brecht, alors, perd son actualité, il entre dans le passé, c'est émouvant. Il devient possible de prendre la distance nécessaire pour traiter son œuvre. Sur France Culture, peu avant la présentation de la mise en scène d'Antoine Vitez à la Comédie Française, Michel Chouchan analysait l'affaire Galilée pour les chemins de la connaissance. À chacun son Galilée, avec Roland Bertin, Antoine Vitez et Pierre Lévy.
Mon intention n'est pas de démontrer que j'ai eu raison jusqu'alors, mais de chercher à savoir si j'ai eu raison. Je vous le dis, et là c'est tout à fait biblique, enfin, laissez toute espérance, vous qui entrez dans l'observation. Ce sont peut-être des vapeurs, peut-être ce sont des tâches, mais avant d'opter pour les tâches, ce qui nous arrangerait, nous préférons supposer que ce sont des queues de poisson. Oui, une fois encore, nous allons tout remettre en question. Et nous n'allons pas avancer avec des bottes de 7 lieues, mais à la vitesse d'un escargot. Et ce que nous trouverons aujourd'hui, nous l'effacerons demain du tableau pour ne le réinscrire que lorsque nous l'aurons trouvé encore une fois. Et ce que nous souhaitons trouver, une fois trouvé, nous allons le regarder avec une méfiance particulière. Ainsi, nous allons commencer l'observation du soleil avec l'intention inexorable de démontrer l'immobilité de la Terre. Et seulement quand nous aurons échoué, définitivement battu et sans espoir, léchant nos blessures, dans le plus triste état, alors nous commencerons à nous demander si nous n'avions pas tout de même eu raison et que la Terre tourne.
Ce texte, lu par Roland Bertin, sera joué sur la scène de la Comédie Française dès le 24 mars 1990. Bertolt Brecht a écrit 3 versions successives de sa pièce, portant à chaque fois un autre regard sur ce Galileo Galilei dont on a fait communément, depuis l'abjuration de 1633, le héros de la raison luttant contre l'obscurantisme. Pour l'écrivain engagé, il y avait dans cette vie exceptionnelle des ingrédients pour une création théâtrale. Mais Galilée, c'est aussi le personnage clé auquel s'affronte tout historien ou tout philosophe des sciences, clérical ou laïque. Il appartient à l'imaginaire collectif, où chacun puise, au fil de l'histoire, un renouvellement du mythe. Au point qu'on se demande, Antoine Vitez, s'il fallait, au moment où certaines idéologies de référence des années 50 se sont effondrées, remettre Galilée et Brecht en face d'un public qui a changé.
Le fait que le titre soit « La vie de Galilée » est assez intéressant, car vous savez que cette pièce a eu 3 titres dans son histoire. D'abord, elle s'est appelée « La Terre tourne », puis La vie de Galilée. Et je vois dans cette évolution du titre une évolution du sens aussi. Il s'agit de raconter la vie de Galilée un peu comme on raconte la vie de Jésus. Il y a une transformation du personnage de Galilée en personnage de légende par Brecht, car le Galilée de Brecht n'est pas tout à fait exact. Les choses ne se sont pas passées exactement comme Brecht le dit. Brecht a tiré Galilée à soi. C'est de lui-même qu'il parle, quand il parle de Galilée, évidemment. Naturellement, il parle aussi de Galilée, une certaine idée qu'on peut se faire de Galilée, mais une idée qui est délibérément, et je peux dire délibérément, arrangée. Il y a une désinvolture du poète envers son modèle, un petit peu comme Claudel écrivant sur Christophe Colomb.
À différentes périodes, on a dit « l'affaire Galilée est bouclée, c'est fini ». Le fait de mettre en scène une telle pièce, est-ce que ce n'est pas une façon aussi de rouvrir l'affaire Galilée ?
Ah, certainement, oui. Certainement parce que l'affaire Galilée, alors, il y a plusieurs choses chez Galilée. Il y a Galilée précurseur de la science moderne, enfin Galilée savant, Galilée poète aussi. Car les sonnets de Galilée sont tout à fait admirables, Galilée écrivain. Et puis alors il y a cette affaire Galilée qui dépasse Galilée lui-même. Après l'affaire Giordano Bruno, il y a l'affaire Galilée, tant d'autres affaires. Comme on dit l'affaire Callas. Hein. Donc c'est une des grandes affaires qui concerne la responsabilité de l'homme de science, la responsabilité de l'intellectuel en général, et puis le rapport entre l'intellectuel et la raison d'État. Je suppose qu'on peut décrire ça de mille autres manières différentes, mais qui toutes tournent autour quand même de ces quelques idées que je viens de dire. Heureusement, il y a un certain nombre de plaies qui demeurent ouvertes. C'est-à-dire que je vois bien que pour l'Église catholique, dans son histoire, c'est quelque chose dont elle a encore à répondre. Je pense d'ailleurs que l'Église catholique, et si vous me posez la question sur l'affaire Galilée, je suis bien obligé de vous répondre en vous parlant de l'Église catholique, il faut qu'elle parle, il faut qu'elle s'explique, il faut qu'elle continue à expliquer quel a été son rôle. Et il faudrait, ce serait magnifique évidemment, si devant le monde entier, dans l'humanité entière, elle essayait de s'expliquer et d'expliquer pourquoi elle a agi comme elle a agi, pas seulement à propos de Galilée.
L'une des difficultés est qu'un certain nombre de documents concernant Galilée sont perdus, ce qui a permis effectivement à chacun de s'approprier son propre Galilée, en particulier à Brecht. Et quelle explication donner de l'attitude de Galilée par rapport à son temps, par rapport à sa science, par rapport à sa foi ?
Galilée, pour Brecht, est à la fois saint et damné. Sauvé et damné. D'abord, il y a évidemment une autre ombre qui pèse sur ce Galilée de Brecht, c'est l'ombre du docteur Faust, personnage mythologique, mais personnage de la littérature allemande et de la poésie allemande. Et vous savez que Brecht a passé sa vie à s'affronter, à se mesurer au plus grand de la littérature allemande. Je pense que cette lutte avec Goethe, avec le fantôme de Goethe, cette convocation de Goethe par Brecht est une des constantes de son œuvre. Et puis il s'agit d'autre chose encore. Je crois que cette œuvre est tout entière une métaphore et que la science de l'astronomie, de la physique, de l'astrophysique dont il est question dans Galileo Galilei, en fait est la métaphore d'une autre science dont il n'est pas question explicitement, qui est la science de la société. Et l'astronomie nouvelle, selon Brecht, à mon avis, c'est le communisme. C'est-à-dire, c'est l'idée nouvelle, la grande idée nouvelle de l'organisation de la société. Une organisation comme il n'y en a encore jamais eu. Je me place à ce moment-là dans la situation de Brecht, dans la situation où parlait ou écrivait Brecht, donc une philosophie de l'espèce humaine, comme il n'y en a pas encore eu, et qui résout les contradictions de l'humanité jusqu'à présent.
Vous avez dit tout à l'heure, Antoine Vitesse, que Galilée, c'était un peu Brecht. En 90, Galilée, c'est qui? Vous le mettez en scène?
Ben, je ne sais pas à qui on peut aujourd'hui comparer Galilée. Évidemment, le nom de Sakharov vient à l'esprit à cause du fait qu'il était justement physicien. Et que lui-même s'est effrayé des découvertes de la science, et que lui-même a rendu homogène sa passion de la science et sa passion civique. Donc il y a une grande parenté personnelle, certainement, entre Galilée et Sakharov. Est-ce qu'il y a une grande parenté personnelle entre le Galilée de Brecht et Sakharov? Je dois dire que je ne sais pas. Parce que le Galilée de Brecht, vraiment, c'est quelqu'un qui appartient à l'histoire du XXe siècle. Mais à l'histoire du XXe siècle avant Sakharov, justement. À l'histoire du XXe siècle, ou pas avant Sakharov, mais ailleurs que dans la situation de Sakharov. C'est vraiment l'histoire du mouvement communiste, l'histoire d'une tentative pour transformer le monde social. Alors, si vous voulez, je vais me permettre de vous lire un petit morceau du texte qui me semble totalement ambigu, c'est-à-dire qui me semble concerner à la fois l'astronomie nouvelle, la science nouvelle, et aussi cette science et cette pratique nouvelle de l'homme qu'est le communisme aux yeux de Brecht. Mon intention n'est pas de démontrer que j'ai eu raison jusqu'alors, mais de chercher à savoir si j'ai eu raison. Je vous le dis, laissez toute espérance, vous qui entrez dans l'observation. Ce sont peut-être des vapeurs, peut-être ce sont des taches. Oui, il parle des hypothèses concernant les taches du soleil. Ce sont peut-être des vapeurs, peut-être ce sont des taches. Mais avant d'opter pour les taches, ce qui nous arrangerait, nous préférons supposer que ce sont des queues de poisson. Oui, une fois encore, nous allons tout remettre en question, et nous n'allons pas avancer avec des bottes de 7 lieues, mais à la vitesse d'un escargot. Et ce que nous trouverons aujourd'hui, nous l'effacerons demain du tableau, pour ne le réinscrire que lorsque nous l'aurons trouvé encore une fois. Et ce que nous souhaitons trouver une fois trouvé, nous allons le regarder avec une méfiance particulière. Ainsi, nous allons commencer l'observation du soleil avec l'intention inexorable de démontrer l'immobilité de la Terre, et seulement quand nous aurons échoué. Écoutez bien à ce moment-là, parce que ce moment-là ne concerne plus l'astronomie, mais concerne précisément le temps d'aujourd'hui. Là, c'est moi qui parle, Antoine Vitesse, en 1990. Et seulement quand nous aurons échoué, dit le Galilée de Brecht, et seulement quand nous aurons échoué, définitivement battu et sans espoir, léchant nos blessures, dans le plus triste état, alors nous commencerons à nous demander si nous n'avions pas tout de même eu raison et que la Terre tourne. Et s'il devait arriver que toute autre hypothèse nous fonde entre les doigts, alors nous serions sans merci pour ceux qui n'ont pas cherché et qui pourtant parlent.
Roland Bertin, c'est vous qui jouez le rôle de Galilée dans la pièce de Brecht. Ce héros positif, mais avec ses faiblesses, comment le concevez-vous?
Vous le décrivez vous-même, vous dites que c'est un héros positif. Mais c'est vrai que tout d'un coup, l'homme n'a pas été à la hauteur du savant, du chercheur. Et naturellement, pour le comédien, pour un comédien, c'est bien, c'est plus intéressant de jouer un grand personnage qui a des faiblesses et qui même peut paraître souvent antipathique, que de jouer, n'est-ce pas, la vertu même. C'est pas toujours très intéressant.
Vous vous êtes plongé, avant de prendre ce rôle, dans les œuvres de Galilée, dans le Saggiator, dans les lettres à Christine Lorraine notamment?
Non, c'est maintenant que je m'y plonge. Je n'aime pas avant, parce que Après, on vient avec un a priori. Moi, j'aime bien être vierge devant une œuvre. C'est d'abord, c'est bien sûr un homme légendaire que j'interprète, mais c'est aussi une œuvre de théâtre. C'est une œuvre poétique. Il y a deux choses qui comptent pour moi au théâtre. C'est d'abord l'émotion que je peux ressentir comme ça pour à la lecture d'une œuvre. Et là, quand j'ai lu Galilée, j'étais comme transporté enfin devant l'évidence que d'un chef-d'œuvre.
Pierre Lévy, l'affaire Galilée lui-même, c'est un spectacle en fait.
L'affaire Galilée est un spectacle, et on peut même dire que au moment où se déroule l'affaire Galilée, il y a une renaissance du spectacle en Europe, puisque Galilée est un contemporain de Shakespeare et de Corneille. Bon. Il y a d'ailleurs quelque chose d'assez étonnant. Une coïncidence peut-être, quelque chose d'assez mystérieux. Pourquoi est-ce que la science occidentale qui est née en Grèce au même moment où la tragédie apparaît, et pourquoi la science renaît en Europe au tournant du XVIe et du XVIIe siècle au moment où également il y a un renouveau du théâtre? Là, c'est quelque chose d'assez mystérieux.
Parler de théâtralisation de cette affaire peut paraître paradoxal.
Je ne crois pas que ça soit paradoxal. D'une part, parce que un des épisodes les plus célèbres de l'affaire Galilée, qui est le procès de Galilée, est lui-même extrêmement théâtral.
Celui de 1633.
Celui de 1633, effectivement. Et d'autre part, je dirais que le metteur en scène de ce procès, ça n'a pas seulement été l'Inquisition, le cardinal Bellarmine, le pape, mais ça a été également Galilée lui-même. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je pense que, bon, le procès a lieu en 1633. En 1632, Galilée publie son dialogue dans lequel il met en scène le procès qui va avoir lieu en 1633, puisqu'il il se confronte lui-même sous les traits de Salviati aux aristotéliciens, à l'Église, aux traditionalistes, disons, qui sont dépeints par Simplicius. Et au cours de ce dialogue, qui est lui-même très théâtral, très imagé, très dialogué, il réussit à battre à plat de couture les traditionalistes, les aristotéliciens, les dogmatiques de l'Église. Bon. Et puis, ce qui va se passer en 1633, c'est que l'Église n'ayant pu, dans le dialogue, vaincre par des arguments, par la raison, par des faits, eh bien, va battre Galilée par la force, par la contrainte. Donc, il a mis en contexte lui-même le procès qui va avoir lieu en 1633. D'une certaine façon, il est lui-même le metteur en scène, le metteur en contexte de ce procès. Et non seulement il l'a mis en contexte, non seulement il lui a donné sens par son dialogue, mais je dirais qu'il l'a provoqué, tout simplement, par son dialogue. Puisque c'était tout de même quelque chose d'assez risqué, étant donné que plusieurs années auparavant, on lui avait bien fait comprendre qu'il n'était plus question de parler du système de Copernic et d'affirmer qu'il était supérieur. Il ne s'agit même pas d'ailleurs de supériorité, il n'était plus question de dire que le système de Ptolémée était faux et que celui de Copernic était vrai. Or, c'est en réalité ce qu'il suggère dans son dialogue. Donc il a provoqué le procès et il lui a donné un certain sens par son dialogue. D'une certaine façon, il est lui-même le metteur en scène de sa propre affaire.
Alors, provocateur ou victime, a-t-il provoqué consciemment ou non? Ça fait partie des questions que se posent régulièrement les historiens des sciences, et il est resté de Galilée l'image d'une victime. Est-ce qu'on n'a pas l'impression, en fait, que de l'affaire Galilée sont sorties des affaires Galilée?
Galilée victime, c'est justement la version de l'affaire Galilée de Galilée lui-même. Il se présente comme victime, lui, du côté du bon droit, et surtout du côté de la raison, du côté des faits, du côté de l'expérience, du côté de la réalité. Et les autres, du côté de l'obscurantisme, du côté de l'argument d'autorité, etc. Bon, ça, c'est la manière qu'a eu Galilée de raconter sa propre affaire. Bien. Il y a bien d'autres façons de raconter cette affaire-là, mais je dirais que devant l'histoire, devant la légende, Galilée a gagné, puisque c'est encore la version galiléenne de l'affaire Galilée qui est majoritairement connue et reconnue. Il a réussi son coup en fondant la science contre l'obscurantisme de l'Église, contre l'autorité de la tradition, etc. C'est-à-dire, il a présenté la science comme ce héros lumineux contre l'obscurantisme. Il y a bien d'autres façons de considérer l'affaire Galilée. Je dirais d'abord que il ne faudrait pas croire que chacun projette purement et simplement ses intérêts sur Galilée. Ou, si vous voulez, Galilée n'est pas simplement un écran sur lequel on pourrait projeter n'importe quoi. Chaque fois que quelqu'un a dit quelque chose sur Galilée, il a mis en valeur un élément nouveau de cette affaire. Le fait d'être intéressé, le fait d'être passionné sur un débat historique comme celui-là n'amène pas forcément plus d'obscurité. C'est-à-dire qu'on va chercher dans des nouveaux recoins et on trouve des nouvelles choses. Alors, quelles nouvelles choses on a trouvées ? Prenons par exemple le Galilée de Kessler, dans son bouquin qui s'appelle « Les somnambules ». Eh bien, pour lui, Galilée, c'est non pas la raison et les faits contre l'obscurantisme, mais c'est la science avec son rationalisme agressif contre les valeurs, contre la culture, contre une certaine tolérance qui est, paradoxalement, incarnée par le cardinal Bellarmine. Puisque vous savez que le cardinal Bellarmine était quelqu'un qui n'était pas du tout hostile à la science, pas du tout hostile aux mathématiques.
C'était un grand philosophe.
C'était un grand philosophe.
Et un grand scientifique.
Un scientifique qui pensait que le système de Copernic était intéressant en tant qu'hypothèse mathématique. Ce qu'il reprochait à Galilée, c'était d'en faire la vérité. C'était son point de vue réaliste. Bon. Alors, ce que reproche Kessler à Galilée, c'est d'avoir poussé l'Église par sa propre action dans le camp de l'obscurantisme, de l'avoir obligé à réagir de cette manière-là. S'il s'y était pris un peu différemment, peut-être que l'Église aurait admis à la longue l'hypothèse copernicienne quand les faits, effectivement, enfin quand il y aurait eu des arguments vraiment démonstratifs pour appuyer cette hypothèse copernicienne, ce qui n'était pas le cas, il faut le souligner, à l'époque de Galilée. Donc, au fond, ce serait Galilée qui aurait poussé l'Église dans ce rôle obscurantiste. Il l'aurait forcé. Bon, alors ça, c'est un point de vue, évidemment, un peu paradoxal sur l'affaire Galilée, mais qui est intéressant. Au fond, à travers Galilée, le problème que se pose Kessler, c'est celui de la science. La science dangereuse, la science opposée à la culture, opposée aux valeurs, qui durcit les oppositions intellectuelles, etc. Bon.
Reste que l'affaire Galilée, telle qu'on l'aperçoit aujourd'hui, est le symbole toujours actuel de la lutte entre l'obscurantisme précisément et le développement possible d'une science moderne, mais également entre une personne et un système d'oppression.
Évidemment, c'est une lecture possible. Il faut tout de même voir que Galilée n'était absolument pas un individu isolé, qu'il y avait tout un courant, non seulement scientifique, mais culturel, sur lequel il s'appuyait, sur lequel il a surfé, avec lequel il a joué, qu'il a suscité lui-même en écrivant ses livres en langue vernaculaire, enfin en italien au lieu de les écrire en latin. Donc il s'adressait à une opinion publique. Ce n'était absolument pas un individu isolé. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle l'Église n'a pas finalement été très méchante avec lui. Enfin bon, vous savez qu'il il a été condamné à se taire. En réalité, on a profité, c'était une espèce de prison dorée. Il en a profité pour écrire son fameux discours sur une science nouvelle, etc., où il a proposé les principes de la nouvelle physique, de la physique mathématique. Bon, ce n'était pas une prison vraiment, vraiment épouvantable. Bon, et je crois que si on a été aussi souple avec lui, c'est parce qu'il n'était absolument pas isolé. Il avait de nombreux appuis, et jusqu'au dernier moment, même le pape était pour lui. Hein. Donc, il ne faut quand même pas exagérer.
Comment expliquez-vous que Bertolt Brecht ait pris tant d'intérêt à l'affaire Galilée ?
Bon, je crois que pour Bertolt Brecht...
Vous avez évoqué Shakespeare tout à l'heure, parlant de Brecht.
Bien sûr. Je crois que pour Brecht, l'affaire Galilée, finalement, lui sert à penser les relations entre le pouvoir et les intellectuels. Et ce sont des problèmes du XXe siècle qui sont évoqués à travers la vie de Galilée, tout simplement. Mais au fond, chaque personne qui s'intéresse à Galilée ne fait que ça. C'est-à-dire qu'il poursuit ses propres intérêts à travers l'affaire Galilée. Bon, Galilée, c'est un personnage qui est un peu, si vous voulez, n'importe quel philosophe, à un moment dans sa vie, rencontre Platon. C'est incontournable, on ne peut pas faire autrement. Bon, n'importe quelle personne qui s'intéresse à la science ou à l'histoire des sciences est obligée de rencontrer Galilée sur son terrain. Je veux dire, c'est un lieu... le mot a été galvaudé, incontournable, de la réflexion sur la science. Et on peut même étendre cela, c'est un lieu incontournable de la réflexion sur les rapports entre le pouvoir et la raison, d'une certaine façon.
Chacun son Galilée, proposé par Michel Chouchan pour les Chemins de la Connaissance, a été diffusé pour la première fois le 19 mars 1990. Vous pouvez réécouter cette émission durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Sure.